Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp au micro, heureux de vous parler aujourd'hui pour ce deuxième épisode spécial Poolers que le LNH.com vous offre. Donc, si vous avez écouté notre premier épisode, vous avez vu un peu ce qu'on a fait. On a fait le tour des sections, parlé de certains enjeux. On a aussi donné, on vous a aussi offert nos top 10 d'attaquants, défenseurs, gardiens. Ça, c'était la première émission. Aujourd'hui, ben, on poursuit ça avec mes deux mêmes collègues, Sébastien Deschambault. Salut Seb.
Salut Nicolas.
Hey, Hugues Marcel, salut Hugues.
Salut les boys.
Ça va toujours bien, les gars?
Très bien, toi, Nick?
Oui, très bien, très bien. Donc, on poursuit. Merci d'être encore avec moi aujourd'hui pour aider tous nos auditeurs pour leur pool. Ça s'en vient, il y en a quand même. Ça commence, là. Dans plusieurs, ça commence quelques semaines avant le début de la saison. Donc, on ne voulait pas trop tarder puis vous offrir ça quelques jours avant le début. Donc, aujourd'hui, on n'est pas nécessairement dans l'analyse de ce qui va se passer, mais plus dans les recommandations. Donc, on va parler des recrues à surveiller, des joueurs qui pourraient exploser, les choix peut-être plus risqués. On va débattre aussi, les gars, entre tel joueur, lequel vous choisissez, pourquoi. Ça va être ça aujourd'hui à l'émission. Donc, je pense que ça s'annonce encore une fois chargé. Là, le premier a fait une heure et demie à peu près, la première émission. Là, puis d'après moi, on va tourner autour de ça encore aujourd'hui. Donc, avant de commencer, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Peu importe votre plateforme, pas mal certain qu'on est dessus. Abonnez-vous aussi pour être certain de jamais rater un seul épisode. On va être hebdomadaire. Je venais de faire un peu bad tripper Seb là-dessus si on tombait sur un balado quotidien cette année, mais non, on va poursuivre avec le format hebdomadaire cette année. Allez, les gars, on se lance les recrues, hein, on le sait, dans les poules à long terme, c'est quand même ce qui fait le plus jaser, ce qui est le plus important à bien viser. Ça peut te mettre sur la traque, comme on dit, pour les prochaines années. Donc, on va parler de ça, quelques recommandations, plusieurs recommandations. On va commencer, bien évidemment, le premier choix. On le sait, dans la majorité des poules, cette année où on pêche des recrues en partant, là, c'est sûr que McLean Celebrini, le premier choix au pêchage, est habituellement le premier joueur repêché. Celebrini qui s'amène avec les Sharks. Ne sera pas tout seul non plus. Vous vous attendez un peu de quoi de Celebrini pour cette année?
Ben écoute, on sait toujours que les bonnes recrues vont d'une année à l'autre, les premiers choix au total. On s'attend à de grandes choses. Pas oublier par contre que McLean Celebrini se retrouve chez les Sharks de San Jose qui sont, on peut pas définir mieux une reconstruction que celle qui s'effectue chez les Sharks. On a complètement décimé cette formation-là au point, par exemple, à la défensive, on avait aucun défenseur sur le jeu de puissance parce qu'on manquait d'options.
On jouait à 5.
Exact, 5 attaquants.
L'an passé, oui.
Donc, on regarde, pour donner faire une comparaison qui se tient, on peut regarder ce que les bonnes recrues ont fait l'an dernier à San Jose. Je pense à William Eklund, 45 points, pas du tout entouré, pas beaucoup d'options sur l'avantage numérique. Donc, de voir un McLean Celebrini surpasser le total de points des clowns, c'est tout à fait logique. Par combien? Ben, moi, je pense que aller voir un 55 points serait quelque chose de logique. Si on regarde Will Smith qui va faire son arrivée en même temps que lui, qui est déjà juste une meilleure option que ce que Eklund avait à ses côtés l'année dernière, est-ce que Will Smith va faire une cinquantaine de points? Donc, moi, je pense que c'est le type le range en bon dans la langue de Molière qu'on peut s'attendre d'un Celebrini d'un Will Smith. Autour de 55 pour Celebrini, 50 pour Will Smith. Ce n'est pas des Connor Bedard non plus en termes de production offensive. Donc, il faut toujours garder les choses en perspective. Une équipe tout aussi décimée que les Blackhawks, par contre.
Will Smith, quand même, là, moi, il m'intrigue énormément. 71 points l'année passée en 41 matchs à Boston College. 9 points en 7 matchs au championnat du monde. C'est un joueur qui, sur papier, est plus offensif que Celebrini. Bon, Will Smith est plus vieux d'un an là, quand même. Même presque 2 ans. Là, c'est un 17 mars, Celebrini. Il avait encore 17 ans lorsqu'il a été repêché, Celebrini. Là, donc, il est plus vieux, un peu plus d'expérience. Tu me demandes cette année, là, est-ce que tu prends Will Smith ou tu prends Celebrini dans un pool? Je m'attends à une production somme toute similaire, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que peut-être que Smith peut faire mieux que Celebrini, puis surtout va peut-être être encore disponible au 4e, 5e, 6e rang de votre repêchage.
Ben, moi je la, peut-être le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est Celebrini est peut-être un joueur un petit peu plus complet que Lee Smith. Puis j'ai l'impression que ça va peut-être lui permettre de tirer son épingle du jeu plus facilement à San Jose. Fait que je prendrais quand même, je pense, Celebrini. Mais non, effectivement, c'est un débat. C'est certain que pour moi, Smith et Celebrini, ça va être l'espèce de duo de recrues le fun à regarder à San Jose, sans vouloir être méchant avec les Sharks. C'est pas une équipe, je pense, qui va, à part ces deux gars-là, que tu regardes pour autre chose que ça. Donc, c'est vraiment ce qui va être plaisant à surveiller à San Jose cette année.
On va dire, c'est un peu plate qu'il ne fonctionne pas. C'est pas un ailier droit, un des deux, pas ailier droit, là, parce que tu aurais quand même un trio assez plaisant avec William McLoone, Celebrini Smith, mais effectivement deux joueurs de centre, donc peut-être en avantage numérique, on verra bien là, dans le cas de Celebrini, mais c'est les deux. Mais comme je dis, Celebrini probablement va être le premier choix, peu importe, mais c'est un joueur plus complet et peut-être à long terme, le plafond de Smith est-il plus élevé statistiquement que Celebrini? C'est difficile de s'avancer, mais je... Tu sais, Smith, là, il y a une belle feuille de route. Là. On va y revenir, mais ça parle de Cutter Gauthier, puis ça a un sens Cutter Gauthier depuis longtemps, depuis la transaction avec les Flyers puis Anaheim. Il reste que le meilleur marqueur de l'équipe l'année dernière à Boston College, là, c'était Will Smith, c'était pas Cutter Gauthier.
On va peut-être se retrouver avec un Jack Hughes, Nico Hischier, entre guillemets, tu sais, dans des rôles qui sont.
Peut-être, ouais.
Ils sont différents, mais aussi essentiels, mais que sur la feuille de match pour les Poolers, Will Smith pourrait trop facilement se retrouver, même si l'importance de Celebrini serait tout aussi importante que celle de Will Smith.
Non, effectivement. Autre recrue qui retient l'attention parce qu'elle était à un match de ne plus en être une recrue, c'est Logan Stankoven du côté des Stars de Dallas. Écoutez, Stankoven, l'année dernière, tu dois jouer 25 matchs, c'est ça, pour ne plus être recrue?
Exact.
Il en a joué 24 et il a amassé 14 points en 24 matchs avec les Stars, aussi 57 points avec les Stars du Texas dans la Ligue américaine. Très bien fait en séries éliminatoires. C'est un joueur très offensif, de petite taille, mais le talent, le potentiel en attaque ne fait pas de doute. Avec autant d'expérience, est-ce que finalement c'est lui qui part en avance pour la course? La course pour le trophée Calder, oui.
Ben, écoute, c'est sûr et certain que c'était un joueur dont le nom résonne beaucoup. Moi, c'est un joueur que j'adore, que j'ai repêché dans de multiples pôles à long terme peu de temps après son repêchage. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Puis, tu sais, c'est un joueur qu'on a tout de suite placé sur un trio offensif. Donc, a déjà ses aises. Donc, évidemment, part avec une longueur d'avance au sein d'une équipe qui regorge de talent. Il ne sera pas isolé. Donc, c'est vraiment un joueur qui pourrait... On parle souvent, il faut faire attention, les joueurs recrues, c'est rare, ça fait plus de 60 points. Mais Logan Stankoven, avec l'expérience qu'il a avec l'équipe, parce que souvent une recrue de talent va se retrouver avec une équipe dépourvue d'autres joueurs de talent, mais lui, ça, c'est ça, pas lui le point de mire. Donc, je pense qu'on pourrait avoir une belle surprise. Puis, dans les meilleurs pointeurs chez les recrues, Logan Stankoven part, selon moi, avec une longueur d'avance.
Ah, tu vois, moi, Seb, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur le potentiel de Stankoven. Je pense qu'il a prouvé dans la Ligue américaine avec plus d'un point par match. Même dans la LNH, il a été excellent. Mais je vois peut-être pas pour cette saison son plafond si élevé que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent à Dallas, oui. Donc, ça peut être un avantage. Ça peut aussi être un inconvénient. À mon avis, tu peux être un peu enterré derrière tout ce talent-là quand t'es pas le joueur sur qui on compte. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs à qui l'entraîneur va devoir distribuer des minutes. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il écope. Puis, c'est peut-être pas un gars qui va jouer énormément de minutes tout de suite dans sa carrière. Ouais. C'est ça. Donc, il y aura probablement, il n'y aura pas le premier jeu de puissance, là, à moins de qu'il soit, tu sais, qu'il explose.
Une blessure.
Mais, donc, moi, je sais pas. Avant de m'avancer, j'entends des gens parler de trophée Calder de presque 60 points. Moi, je le vois plus autour de 40-45 points. C'est mes attentes pour lui. Et là, je parle évidemment dans un pool annuel, dans une ligue à long terme. Seb, tu en as parlé, tu l'as pris dans tes keepers. C'est certain que là, on n'a pas la même discussion. Mais dans une ligue annuelle, moi, personnellement, c'est pas... Je ne jetterai pas mon dévolu sur Stankoven pour ces raisons-là.
quand même maintenu une moyenne sur 82 matchs l'année dernière de 48 points. En n'ayant aucune opportunité sur l'avantage numérique, sur les meilleurs trios, il était surtout sur le troisième trio.
Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je dis 40-45 points, on est dans ces eaux-là pareil. Tu mettons 45, t'as 3 points de son rythme de la saison dernière, ce qui est pas. C'est là que je le vois à peu près. Là.
Mais en même temps, c'est un couteau à deux tranchants parce que oui, t'es pas le joueur qui dans une reconstruction, on met toutes tes billes ensemble, Connor Bedard l'année passée, puis tu sais, nommez-les, célébrer nous tout ça. Mais en même temps, t'es tellement mieux entouré que tu vas aller chercher pas mal plus de points 5 contre 5 que les deux autres là, qui se démènent comme des diables dans l'eau bénite.
Il faut faire attention avec les paces, avec les rythmes. Tu sais, oui, sur 24 matchs, il était sur un rythme de 48 points, mais après ça, tu lui demandes de jouer 82 matchs. C'est pas facile de jouer 82 matchs pour une recrue. C'est pas facile pour une recrue de 5 pieds et 8 de jouer 82 matchs dans une ligue où c'est physique, où ça se rate.
Mais ce n'est pas plus pour les gars qui arrivent dans la NCAA et qui en jouaient 40 l'an passé.
Non, c'est certain.
Dans le fond, ça se match. Je pense que le niveau du défi là, se compare quand même.
Absolument.
Ce qui rend la course, à mon avis, la course au Calder cette année extrêmement serrée. Autant qu'on n'en avait pas vraiment l'année dernière. Tant que cette année, là, on a plusieurs candidats, dont le prochain. On s'est déjà chicané sur lui lors du dernier balado. C'est Matvei Michkov. Toi, Hugues, bon, Michkov arrive à 19 ans ou 20 ans. Là, du moins, là, c'est n'a pas été repêché l'été dernier, l'année précédente, par les Flyers. Il arrive après avoir joué à Sochi l'année dernière dans la KHL. Il a très bien fait à Sochi. Mais tu sais, je ne sais pas si on ne le voit pas trop gros un peu, Michkov. Par rapport à ce qu'il va être capable de donner à Philadelphie.
Moi, je suis assez optimiste avec Michkov. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Je trouve que, il y a quelques années, il ne faut pas oublier, Matvei Michkov, on parlait de lui, on le mettait nez à nez avec Connor Bedard. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Il y a glissé au repêchage. Puis là, c'est comme si soudainement, Matvei Michkov, c'était plus le même joueur. Je trouve qu'il a quand même fait ses preuves. Il a ramassé 41 points en 47 matchs dans la KHL, dans une équipe qui n'était pas une équipe de premier plan dans la Ligue. Je veux dire, c'est un gars qui est bourré de talent. Puis surtout, je trouve que c'est un gars qui va avoir toutes les chances de se faire valoir à Philadelphie. C'est le joyau de l'organisation. Sur lui, on a besoin d'attaque. C'est lui qui va en créer de l'attaque. Donc, moi, je suis quand même optimiste. Je pense qu'il y a peut-être même des chances qu'il fasse plus de points qu'un Celebrini à sa première saison parce qu'il va être quand même mieux entouré. Tu sais, j'aime mieux les joueurs autour de lui à Philadelphie que les joueurs autour de Celebrini à San Jose. Donc, tu sais, je pense qu'il est déjà un peu mieux entouré. Il y a un top, tu sais, il y a des gars comme Konechny.
Je pense quand même que sa courbe d'apprentissage est quand même immense par rapport à tous ceux qu'on a nommés. Parce que c'est les glaces nord-américaines, c'est John Tortorella qui te demande d'avoir un style de jeu fiable, ce que Michkov n'est pas nécessairement décrit pour être un joueur efficace des deux côtés de la patinoire. C'est beaucoup de pression aussi. Il est vu comme le sauveur dans une concession où le jeu de puissance a été catastrophique au cours des deux dernières années. Il n'y aura pas la même liberté de se pointer en attaque puis de s'amuser offensivement que Celebrini et Smith, à mon avis.
Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, les Flyers ont quand même surpris l'année dernière, mais c'est une équipe qui n'avait pas une attaque à tout casser. Ils ont surpris, ils ont surpassé les attentes, mais bon, Travis Konechny, le seul marqueur de 30 buts, 60 points de cette équipe-là, on a seulement deux autres attaquants avec 50 points. Il ne faut pas penser que l'arrivée de Michkov va transformer cette équipe-là ou va aider le jeu de puissance, va aider l'attaque, mais de là à dire qu'il va faire mieux que le meilleur joueur qui est un joueur établi qu'à l'an dernier en Konechny. Et moi, j'ai une petite gêne, surtout avec la façon de diriger John Tortorella. Donc, je le vois faire sa cinquantaine de points. J'ai de la misère à m'enflammer beaucoup pour une recrue qui n'a pas encore joué en Amérique du Nord avec un entraîneur aussi exigeant de Tortorella, avec une équipe qui aspire à être meilleur, mais qui n'est pas encore tout à fait là.
Non, je me range plus
du côté. Mais précisons, j'ai pas dit qu'il va faire plus de points que Konechny l'an passé. Je pense pas qu'il va faire 68 points, mais moi, je pense quand même qu'il peut. Moi, je pense qu'il peut atteindre le plateau des 60. Là.
À vrai dire, ça va passer.
Il a le talent pour le faire.
Ouais, ça va passer par la renaissance du jeu de puissance des Flyers, parce que regardez le part offensif de cette équipe-là, puis quand on regarde le jeu de puissance, on ajoute 15 % d'efficacité, là, parce que l'année dernière, je pense que c'était 12, là, j'y vais gros, là, mais juste 10 % de plus d'efficacité, le nombre de buts que ça te rajoute. Il y a quand même une bonne différence, surtout si tu es sur la première unité. Rutger McGroarty, qui de toute évidence ne voulait rien savoir des Jets de Winnipeg, a été échangé aux Penguins de Pittsburgh. Et tu vois quand même dans ta soupe un peu, Hugues, parce qu'il va se faire... devrait se faire offrir une belle opportunité à Pittsburgh, une équipe qui cherche des jeunes joueurs, on le sait. Bon, on n'a pas repêché souvent dans les 10 dernières années à Pittsburgh. Et c'est surtout un joueur qui est une année plus près que ne l'était Brendan Jaeger. Donc, c'est un joueur qui est plus vieux et qui va peut-être bien s'insérer là, dans le moule à Pittsburgh.
Ben, tu sais, c'est ça. Le voir dans ma soupe, pas autant que Michkov. Non, mais sans blague... je pense juste qu'il y a quand même une chance légitime qu'il puisse s'installer sur le top 6 des Pingouins. C'est pas hors de tout doute raisonnable, à mon avis, à l'issue du camp d'entraînement, dépendamment de ce qu'il va faire. Donc, sur le top 6 des Pingouins avec un Crosby ou avec un Malkin, sait-on jamais, ben, c'est sûr que ça t'aide. T'sais, même Malkin a beau être vieux, a beau être âgé, c'est sûr que ça va quand même t'aider à produire si t'es bon joueur de hockey. Donc, juste une recrue à garder sur votre radar. C'est un Rutger McGroarty, dépendamment quand a lieu votre repêchage. Là, si vous êtes capable de voir ce qu'il fait un peu au camp des Pingouins, de suivre ses succès, si on le garde avec l'équipe, ben, ça peut être une carte cachée chez les recrues. Un gars qui n'est pas nécessairement dont on entend moins parler que les Celebrini, Michkov et Stankoven.
Oui, écoute, chez les Pingouins, on a 5 joueurs, là, disons, qui sont assurés de leur place les deux premiers trios, puis on cherche toujours quelqu'un. Mais tu sais, Rutger McGroarty, c'est le genre de joueur que s'il fait l'équipe, ben c'est pas pour le mettre dans un rôle d'attaquant défensif. Non. Donc, s'il fait l'équipe, c'est parce qu'on l'a mis. Et là, présentement, sa compétition, c'est Anthony Beauvillier, c'est Drew O'Connor qui a montré certains flashs. Est-ce qu'on a la renaissance de Jesse Puljujärvi? C'est des rôles, c'est des joueurs comme ça qui l'a à battre, entre guillemets. Puis,
des joueurs avec plus de points d'interrogation que de certitudes.
Oui, c'est des vétérans qu'on sait un peu ce qu'ils peuvent offrir, mais on a le potentiel d'avoir un jeune joueur qui pourrait faire mieux, mais pour ça, il faut le placer dans la bonne chaise. Donc, c'est tout un ou tout l'autre. Il ne sera pas là du tout, ou ici et là, il va avoir un beau rôle à jouer.
Oui, exactement. Dernier, on a parlé un peu de Cutter Gauthier. Qui s'amène, devrait s'amener dans la Ligue nationale de hockey dès cette année. On le sait, a fini la saison l'année dernière avec Anaheim après avoir terminé son passage dans les rangs universitaires. Bon, Gauthier, c'est le 5e choix du repêchage 2022. L'année dernière, comme je disais, une passe même à son premier match dans la Ligue nationale avec les Ducks. 65 points avec Boston College en 41 matchs. Donc, tu sais, un beau résumé, là, un beau curriculum vitae de sa carrière amateur. Est prêt pour les pros, mais on l'insère où? Vous le voyez quoi un peu comme projection dans le cas de Gauthier en se disant qu'il est loin d'être tout seul avec ce profil-là en AIM. C'est pas comme si tu veux développer un jeune. Ben justement, McGroarty en est un bon exemple. Tu veux faire jouer ce jeune-là dans tes deux premiers trios pour lui permettre de gagner de l'expérience puis tout ça, puis... Tandis que des gars avec ce profil-là du côté d'Anaheim, il y en a plein. C'est pas ça qui manque.
Tout à fait. Écoute, c'est une équipe, on en a déjà parlé, qui sont très près d'être très bons. Mais tu as plusieurs joueurs au même profil que tu dois trouver une façon d'intégrer en même temps. Des Cutter Gauthier, des Mason McTavish, des Leo Carlson. Même Travis Egress n'est pas un vétéran non plus. Donc, c'est de trouver la bonne formule. Je sais qu'on a beaucoup d'expérience à tenter. Des vétérans dans la formation, il n'y en a pas des tonnes. On parle à Ryan Strom, Alex Killorn, Frank Vetrano. Donc, c'est de voir comment on va trouver. Je pense que je m'attends à un lent début peut-être là, de nos six jeunes formations et surtout de Cutter Gauthier qui a moins d'expérience que les autres encore. Mais au fil du temps, je pense que ça va être de mieux en mieux. Vous voyez un très bel avenir, mais je pense que cette saison, faut mettre nos attentes à la baisse un petit peu envers Cutter Gauthier juste parce que. Il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de compétition pour un peu le même rôle. La seule chose que je dirais qui joue contre lui, c'est on a fait une grosse transaction pour aller chercher. Puis ça, les coachs aiment bien faire paraître les DG. Si moi, tu vas amener un gros joueur, tu as mis ta tête sur la bûche en faisant un gros échange, ben moi, je vais m'arranger pour que tu aies l'air pas trop fou en donnant la meilleure occasion possible à ces joueurs-là.
Non, je te suis des fois... Moi et Hugues, on essaye de bien faire pareil notre patron. Là. C'est toujours bien important, hein, Seb? Alors, on...
Vous êtes très bon là-dedans, en passant.
Merci.
On ne le contredit pas trop sur le podcast.
Non, puis... c'est ça. On corrige ses textes puis tout ça. Non. chez les défenseurs maintenant, deuxième choix du dernier repêchage, Artiom Lefchounov chez les Blackhawks. C'est toujours important de repêcher. Moi, je dis tout le temps, dans un pool, ça se gagne avec les défenseurs. Donc, quand t'en as un qui a été sélectionné au deuxième rang, comme l'a été Lefchounov, ben, tu vises gros, mais réalistiquement, bon, quitte les rangs universitaires, quitte Michigan State, ça mène chez les pros. Mais les attentes, c'est quoi pour Lefchounov, selon vous, dans une équipe dont le profil offensif est quand même faible, les Blackhawks?
Moi, je pense que Lefchounov, probablement cette saison, ça va plus être une saison où il va devoir s'acclimater à la LNH. Donc, je pense qu'on va pas mettre des attentes trop élevées envers lui, sachant que les Blackhawks sont pas une très bonne équipe. Une équipe, ça va être difficile. C'est une équipe qui n'aura pas souvent la rondelle, qui va se défendre beaucoup. Donc, je m'attends à ce qu'on lui demande peut-être plus de travailler sur son jeu défensif, de juste être une présence stable, de tenir son bout dans la Ligue nationale, puis qu'on... Je pense pas qu'on va lui dire comme qu'on va lui donner en plus et demander de produire offensivement. Fait qu'offensivement, je m'attends pas à grand chose de Lefchounov. Je pense que ça va plus passer à la ligne bleue par Seth Jones, peut-être plus par Kevin Korchinski qui est déjà un petit peu plus expérimenté. Mais c'est ça. Je pense qu'il va passer toute la saison à Chicago. Là. Il a quitté les rangs universitaires pour ça. Il risque de rester, mais je m'attends pas à grand chose offensivement. Peut-être, moi, je pense que s'il fait une vingtaine de points, peut-être s'il fait plus que 20 points, on va pouvoir dire que c'est très, très bon. C'est pas un gars que je ciblerais dans une ligue annuelle, dans un pool à long terme. Oui, peut-être en gardant en tête que c'est peut-être pas le gars qui a le plafond offensif le plus élevé, mais on parle d'un bon défenseur complet. Mais c'est ça. Cette année, je ne m'attends pas à grand-chose pour un gars que je ciblerais dans mes ligues.
Oui, le seul avantage qu'il y a, c'est que ça fait 2 ans quand même qu'il est en Amérique du Nord. Il joue aussi une année dans la USHL. Ouais. Donc, ça, au moins, il maîtrise bien. Puis, Michigan State n'est pas le plus gros programme non plus. Donc, tu sais, il a affronté des programmes meilleurs que son équipe l'était l'année dernière. Peut-être un peu une carte cachée, mais comme tu dis... garder une petite gêne, surtout dans les pools annuels, à moins que vous ayez beaucoup de rondes, là, énormément de rondes, là, mais sinon, restez calme. Deux dossiers qui retiennent l'attention à Montréal, bien évidemment, Lane Hutson, Logan Mailloux. Premièrement, est-ce qu'il y en a un qui fait l'équipe? Est-ce que les deux font l'équipe? Et surtout, qui va évoluer où? On va commencer par Mailloux, on parlera d'Hutson après. Mailloux, vous le voyez comment, Mailloux, son apport, sa présence à Montréal, à travers une équipe qui a aussi un autre jeune, en Justin Barron, un Arbor Jekai, qui a un profil quand même très différent. Là, c'est pas le même profil. Kaden Goulet, pas trop vieux non plus. Puis j'ai même pas nommé Jaden Strouble à travers tout ça. Donc, Mailloux comme recrue, vous le voyez comment?
Moi, je pense qu'on va prendre notre temps avec Logan Mailloux. A très bien fait dans sa première saison complète de la Ligue américaine. Encore des choses à parfaire défensivement. C'est un défenseur qui a montré qu'il avait un flair offensif. Puis c'est aussi un défenseur qui a un style classique de défenseur qui doit apprendre à jouer. Comment je dirais ça? En les comparant, Logan Mailloux et les Hutson, on ne parle pas du tout du même joueur, même si bon, les deux ont un potentiel certain. Deuxième chose qui joue contre Logan Mailloux, c'est que, comme tu as parlé de Justin Barron, il y a une congestion déjà devant Logan Mailloux et Justin Barron, lui, cette saison, doit passer par le ballottage pour retourner dans la Ligue américaine. Si on décide de le placer au ballottage, je pense que comme on a une grande peur, là, on a vu l'an dernier de perdre un Caden Primo pour rien, ça a pris toute la saison, puis on n'a pas osé le faire. Donc, je pense que Justin Barron, sa situation contractuelle, défenseur droitier, tout comme Mailloux, va probablement... Ça ajoute une autre prise là, contre Logan Mailloux avec le reste de la congestion. Je m'attends à le voir. Logan Mailloux, dans le courant de la saison, on l'a vu un match l'année dernière. Je m'attends à voir plus de... Tu sais, ça va être le premier joueur rappelé en cas de blessure. Mais je m'attends pas à le voir amorcer la saison à Montréal.
Lane Hutson, lui, est-ce que c'est le nouveau sauveur? Que le Messi est arrivé? Parce qu'on lit un peu, puis il y a une grosse effervescence autour de Lane Hutson. J'ai adoré ce que j'ai vu de sa part dans les deux derniers matchs l'année dernière contre les Red Wings de Détroit. Contrôle de la rondelle, le travail sur les Edgework, là, qu'on ne trouve jamais la traduction, là, mais sa fluidité pour patiner, c'est impressionnant, mais c'est pas un gros gars. Il n'a pas l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Mais déjà, on parle de premier avantage numérique. Tu sais, où faut quand même faire preuve d'un peu de conservatisme, je pense, avec un joueur de ce type-là, Hugues.
Oui, ben ça vient avec une part de risque là, si vous le sentez dans votre pool, parce qu'il y a congestion à gauche à Montréal là, avec on a Matheson, on a Arbor Jacky, on a Struble, on a Caden Goulet que je n'avais pas encore nommé. Mais ça fait beaucoup de défenseurs gauchers. Mais peut-être je trouve ce qui joue en faveur de Lane Hudson, c'est que c'est un talent vraiment unique. C'est un joueur. On n'a pas un autre joueur comme ça en défensive avec ce profil-là chez les Canadiens. Puis moi, je trouve que c'est un joueur qui, tu sais, c'est très possible qu'il retourne dans la Ligue américaine, parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin de passer par le ballottage. Donc, on pourrait juste dire, regarde, il a juste 20 ans, il est petit, doit parfaire son jeu défensif, tu sais, doit s'habituer au jeu chez les pros, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Sauf que je trouve qu'il y a peut-être qu'il y a des habiletés qui conviennent mieux à la LNH, qui... C'est plus facile à développer au niveau de la LNH avec des joueurs de talent. Puis on l'a un peu vu dans les deux matchs qu'il a joué contre les Red Wings et les Trois en fin de saison. Il avait pas l'air perdu. C'est un gars qui a du talent, qui a tellement de talent, il a besoin que les gars autour de lui soient capables de compléter ce qu'il fait. J'ai l'impression que ça serait un peu moins le cas dans la Ligue américaine. Donc moi, c'est ça, je trouve, qui pourrait l'aider à. Moi, je pense qu'il va commencer l'année à Montréal. Après, reste à voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va lui donner la première vague du jeu de puissance? Je pense encore que ça va être Matheson qui va commencer l'année, mais il y a une réelle possibilité qu'on le retrouve. T'sais, il pourrait déloger Matheson en cours de saison. C'est peut-être une long shot un peu, mais...
Si le Canadien n'est pas dans le portrait pour les séries, où Matheson peut changer d'adresse, là. Il reste deux ans son contrat
aussi, sa valeur,
il vient de connaître la saison de sa vie, sa valeur est quand même assez élevée. C'est pas impossible effectivement qu'il y ait des changements si le Canadien n'est pas dans la course.
C'est sûr que Lane Hudson, c'est un joueur que si tu es dans ton équipe, ça sert à rien de le laisser sur le banc quand l'avantage numérique commence, parce que ça va être son pain et son beurre dans la Ligue nationale.
C'est comme inviter une fille au bal et pas l'inviter à danser là.
Tu veux, je m'ennuie à tes analogies, Nicolas. Mmh, mmh. C'est vraiment. J'ai passé tout l'été à me morfondre parce que j'avais pas ces analogies-là. Et là, maintenant, je peux recommencer à sourire. Tu veux?
Mais oui, donc, je suis d'accord aussi avec ça. Ben, tu le mets pas dans la Ligue nationale pour le faire jouer à des avantages numériques. Fait que s'il joue dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'il va être fantasy relevant. Je m'excuse le terme en anglais, mais c'est sûr qu'il va être c'est un joueur qui pourrait contribuer dans vos pools. Je sais pas trop comment dire
voilà.
Ça.
Je préfère ça. Mais dans les deux cas, difficile de mettre une projection et à éviter dans les pools annuels.
Dans le cas de Mayu, c'est sûr et certain, parce que même s'il va quand il va s'implanter, ça va être une question longue. Ce sera pas du jour au lendemain. Alors qu'un joueur comme Lane Hudson, pour un pooler, c'est vraiment tout ou rien. S'il joue dans la Ligue nationale, il va être là pour être bon sur l'avantage numérique. Il ne sera pas envoyé contre les meilleurs éléments adverses. Il ne sera pas envoyé en des avantages numériques. Il va être là pour les situations offensives. C'est ses forces. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, s'il est là dans la formation, c'est comme ça qu'il va être utilisé. Mais est-ce qu'on va lui faire de la place? Ça reste à voir. Mais s'il est là, c'est sûr que ça va être un atout pour les poolers.
En terminant la portion recrue, il y a deux gardiens qui devraient obtenir leur chance cette année dans la Grande Ligue. Dustin Wolf, tout d'abord, chez les Flames, lui a une réelle chance d'être un vrai numéro un à Calgary, même si à date, ça ne s'est pas nécessairement bien passé. Là. C'est quelques matchs dans la Ligue nationale, mais c'est le gardien d'avenir des Flames. C'est un gardien qui a dominé partout à Everett, dans le junior, à Stockton, dans la Ligue américaine. Plus rien à prouver en bas. Mais c'est avec les Flames, donc il faut adopter de la patience. Là.
Oui, en même temps, bon... C'est un joueur de gardien. Là, c'est le gardien qui a prouvé qu'il n'y a plus rien à faire dans la Ligue américaine. Gagner gardien de l'année deux ans en ligne, si mes souvenirs sont bons. Comme tu as dit, ça a été pénible. C'est sa première expérience comme gardien de la Ligue nationale. Mais par contre, il est en compétition avec Dan Flatter, donc on va lui donner sa chance. C'est le départ de Jakob Markstrom, la reconstruction, la réinitialisation, si on veut.
Ouais.
C'est pas un. C'est pas un, un C'est sûr que ce n'est pas le scénario optimal pour un gardien. Il va recevoir beaucoup de lancers. C'est une jeune équipe. On a reconstruit la brigade défensive, mais il n'y a pas de temps de compétition. Donc, va avoir des matchs. C'est dans les poules, les victoires font foi de tout. Donc, va quand même avoir un... C'est pas une équipe qui est complètement à terre. On a encore des joueurs de talent là-bas. C'est pas une option dans les 10 premiers, mais chez les recrues, les gardiens recrues, Dustin Wolfe est la meilleure option pour les Poolers cette année.
Oui, parce que la deuxième option, c'est Yaroslav Askarov là, qui vient d'être échangé des Predators aux Sharks. Mais bon, on a Mackenzie Blackwood, on a Vitek Vanecek du côté des Sharks. Ben là, je pense qu'il va falloir prendre une décision parce qu'on n'est sûrement pas allé chercher un gardien qui ne voulait plus évoluer dans la Ligue américaine de hockey à Nashville pour le faire évoluer dans la Ligue américaine de hockey du côté de San Jose avec le Barracuda. Mais la réalité, c'est que premièrement, il va avoir moins de départs que Wolf. Puis deuxièmement, il joue avec une équipe qui est encore plus profonde au classement que les Flames. Donc Askarov, pas vraiment, disons-le, une option cette année dans les poules. À long terme, le gars, lui aussi, a tout brûlé dans la Ligue américaine. Donc,
Askarov dans un pool, c'est le cas. Vous ne le prenez pas dans une ligue à long terme. Excusez, vous ne le prenez pas dans une ligue annuelle, mais dans votre ligue à long terme, vous le prenez, vous le sacrez dans votre bench de mineur, puis vous attendez que les Sharks soient bons. C'est vraiment...
Il y a beaucoup de compétition avec les deux vétérans devant lui, puis... la défensive des Sharks, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est quelque chose. Là, c'est pas facile pour un jeune gardien. Là.
Non. Ça va être long. Ça va être très, très long. Puis tu veux pas. C'est qu'en plus, tu vas être lancé dans cet environnement-là où tu essaies de te prouver avec pas de défenseur. C'est difficile pour la confiance. Ça va être long avec Askarov. Tu te donnes des points puis tu te donnes beaucoup de points dans un pool. Pool à long terme, keeper, là, qu'on appelle, là, ça, c'est clair. Ça fait un peu le tour pour les recrues qui devraient retenir l'attention dans la Ligue nationale cette année. On va passer à une autre catégorie, joueurs qui pourraient exploser. En gros, le profil, là, c'est un joueur qui est dans la Ligue nationale de hockey depuis quelques années, 2, 3, 4, qui connaît un peu de succès, mais qu'on pense que cette année, ça va être sa grosse année qui va signaler. J'y vais avec JJ Peterka du côté des Sabres de Buffalo. Là, on a racheté le contrat de Jeff Skinner. C'était pas pour le plaisir qu'on a racheté le contrat de Skinner. C'est parce que Peterka a prouvé qu'il est prêt à prendre des bouchées doubles sur le premier trio avec Tage Thompson et Alex Stock probablement. L'année dernière, le 50 points pour Peterka est vraiment... il est chez les Sables, on le voit vraiment, mais vraiment dans notre soupe. C'est un joueur qui... Tu sais, je veux dire, la porte est ouverte pour lui là, chez les Sables. Va avoir probablement du premier avantage numérique. On s'attend à ce qu'il augmente de beaucoup sa production. Donc moi, j'irais vraiment... là. Ça serait ma première recommandation, JJ Peterka. J'avais fait une... Attendez, je vais vous donner mon pronostic. Je donne 61 points. Wow. Cette année, là, j'arrête le compteur à 61 points. Surtout que Buffalo, tout le monde a été un peu très moyen l'année dernière. Nouvel entraîneur, tout ça. Je m'attends à un regain d'un peu tout le monde, que tout le monde ajoute au minimum 10 points à sa fiche là, environ. Donc,
Même Devin Levi.
Devin Levi, on verra bien, là, parce que je pense que Ukko Pekkolikkonen a quand même...
Moi, je parlais de ses 10 points à sa fiche, mais bon.
Attends une minute. Lui... riait de mon gag de tantôt avec ce qu'on vient d'entendre. J'ai des doutes, on va retenir... retire tes paroles, là. Mais non, mais c'est ça. C'est Peterka, très bon candidat pour moi. Hugues, ton premier candidat.
J'aime bien Peterka, ça aurait été un de mes choix, moi aussi. Je vais y aller avec Quinton Byfield des Kings de Los Angeles. Quinton Byfield, l'an dernier, 55 points. Mais au-delà des 55 points, c'est sur la glace le joueur qu'on a vu. C'est un gars qui, par moment, avait l'air d'une véritable force. Un patineur de quoi, je pense, 6 pieds 5. Il patinait extrêmement rapide pour un gars de 6 pieds 5. Je pense que ça va être un gars qui va devenir dominant, qui va être imposant, fatigant à jouer contre. Faut juste que tout se mette en place. Puis ça pourrait être cette saison que ça se met en place. Ma seule question, c'est que là, ça se peut que les Kings le faisaient jouer à l'aile de Kopitar et Kempe. l'année dernière. Est-ce qu'on va décider de le faire jouer sur son propre trio? Parce que le plan à long terme, c'est que ça devienne le premier centre de l'équipe. Donc, est-ce qu'on lui donne son trio cette année? Le cas échéant, si on le sépare de Kopitar et Kempe, qui sont les deux meilleurs joueurs des Kings, est-ce que, bon, il y a aussi Kevin Fiala, mais est-ce qu'en pilotant son trio à lui, ça pourrait être un peu plus difficile? Peut-être. C'est pour ça que j'allais dans la catégorie des joueurs qui pourraient exploser. Mais oui, je suis assez optimiste avec Byfield. Je pense qu'il peut faire un peu comme Peterka, une soixantaine de points. Pour moi, c'est son plancher. Puis après, il peut espérer peut-être franchir le 70, peut-être toucher 75, sait-on jamais.
Seb, ton premier candidat?
Mon premier candidat est Tommy Novak chez les Prédateurs. C'est un joueur qui avait une arrivée surprise un peu dans la saison qui vient de se dérouler, l'autre avant. Il est arrivé, sans dire de nulle part, avec 43 points en 51 parties, avec une équipe qui s'en allait un petit peu nulle part. L'année dernière, a fait à peu près le même nombre de points, mais avec beaucoup plus de matchs. On n'a pas donné plus de temps de glace, on n'a pas donné plus de jeux de puissance. Donc, la différence cette année, c'est que lui, c'est un joueur de centre qui a joué à l'aile à l'occasion, tout ça. Et là, cette année, on a quand même un poste de deuxième centre qui pourrait s'ouvrir entre des joueurs comme Marchessault et Stamkos. L'heureux gagnant de cette loterie-là, si c'est Tommy Novak, mais pourrait avoir son total de points explosé. Donc, franchir le cap du 50, s'approcher du 60 avec deux joueurs de cette trempe-là. Donc, à surveiller la lutte au camp d'entraînement si Tommy Novak se retrouve au centre du deuxième trio ou du premier trio, tout dépendant comment on veut les numéroter, ça serait toute une acquisition.
Devrait pas avoir tant d'avantages numériques, logiquement, là, par contre.
Pas sur la première vague, en effet.
Surtout que tu peux placer Stamkos au centre là, sur l'avantage numérique. Là, c'est fait que Novak, j'ai pas vu ce qu'il avait fait l'année dernière en avantage numérique, là, mais quand même, oui, c'est un bon candidat. Mon deuxième candidat, justement, Dylan Gunter, du côté du club de l'Utah, la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, Gunter, il est passé. Les Coyotes ont vraiment pris leur temps avec Gunter. Ils l'ont retourné dans le junior. Ils l'ont fait passer par la Ligue américaine l'année dernière. Puis ça a payé parce que quand il est arrivé dans la Ligue nationale, 35 points en 45 matchs. 11 points dans ses 8 dernières parties. Barrett Hayton était le centre numéro 1 l'année dernière des Coyotes et a été blessé. Puis même lorsqu'il était là, c'était probablement le joueur le plus malchanceux de la Ligue. Il n'y a rien qui voulait rentrer, il n'y a rien qui fonctionnait, malgré que son jeu était quand même correct. Donc Gunter pourrait même s'installer sur le premier trio. Premier avantage numérique, c'est un joueur qui va passer dans l'ombre parce que pas mal sûr que si on demande à la majorité des gens là, qui voient dans leur soupe cette année, Dylan Gunter n'est pas là. Un joueur que vous pourriez obtenir quand même tardivement dans votre pool puis qui pourrait être très, très payant. Hugues, ton deuxième?
Ben, j'ai Matthew Nyes avec les Maple Leafs de Toronto pour la simple et bonne raison que très, très bonne chance d'évoluer avec Austin Matthews qui va fort probablement remporter le trophée Maurice Richard à moins d'une blessure. Avec Mitch Marner aussi, qui va compléter ce trio-là. Donc, quand tu vois que les deux meilleurs joueurs des Maple Leafs de Toronto, c'est tout le temps une très bonne chose. Donc, je pense qu'il est à Ouais, c'est ça. Il est à un point de sa carrière aussi. Il peut comme atteindre un autre niveau. Là. Il a joué sa première saison complète. 35 points, c'est modeste, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, avec une progression naturelle, ben pourquoi pas peut-être une saison d'une cinquantaine de points pour Matthew Nyes. Puis à ce moment-là, ben fin de repêchage, ça peut toujours être une acquisition qui vous fait bien paraître. Donc, c'est à considérer.
Seb, finalement?
Finalement, on va y aller avec un joueur que les gens connaissent bien au Québec, Juraj Slafkovský. On l'a abordé dans le dernier balado. La chose que je veux dire, j'avais déjà dressé le portrait de son profil assez unique dans les attaquants de la Ligue nationale. Un des 7 attaquants avec 20 buts, 30 mentions d'aide, 150 mises en échec. On sait qu'il a très, très bien terminé la saison. 19 points, c'est 19 derniers matchs. Mais ce qui retient mon attention, savoir pourquoi il pourrait peut-être faire un bond plus important encore qu'on pourrait penser, c'est qu'il s'est mis à tirer au filet de façon plus régulière. pour l'ensemble de la saison, Juraj Slafkovský n'a pas obtenu une moyenne de 2 tirs par match. Pendant les 19 derniers matchs, il était un peu plus que 2 tirs et demi par match. Donc, s'il peut maintenir ça et même tirer un peu plus souvent, ça devient une menace encore plus difficile à contenir pour les joueurs adverses. Ça vient avec la confiance. Ça vient aussi avec le fait de jouer avec des compagnons de trio de la trempe de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Donc, cette tendance-là à tirer davantage vers le filet rend Slafkovský encore plus intriguant. Mais je pourrais peut-être connaître sa grande éclosion dès cette année si tout tombe en place et puis qu'il continue à lancer au filet comme ça.
Ouais. Il va être à surveiller, surtout si le reste de ses coéquipiers continuent en progression. Là, on sait, ça vient avec là, les Caulfield, Suzuki, c'est encore très jeune. Si on garde ce trio intact. Choix risqué maintenant. Qu'est-ce qu'un choix risqué? Ben, peut-être un joueur qui a surperformé l'année dernière, un joueur peut-être un peu fragile, un joueur qui a changé d'adresse, puis qu'on s'attend à ce que ce soit un peu moins payant pour lui. J'y vais, Hugues. Hugues, ton premier joueur peut-être à... Je veux pas dire à éviter, mais tu sais, à être réaliste, peut-être être conservateur. Je veux pas dire que le joueur va tomber, va perdre la moitié de sa production, mais quand même, s'attendre à une bonne baisse.
Ouais, ben c'est Gustav Nyquist des Prédateurs de Nashville. Bon, 75 points la saison dernière, comme on l'avait tous prédit. Je veux dire, c'est fou ce qu'il a fait la saison dernière. Personne ne s'attendait à ça. 24 points en avantage numérique, ça risque pas d'arriver cette année pour la simple et bonne raison qu'il jouera probablement pas sur la première vague d'avantage numérique. Avec l'arrivée de Stamkos, avec l'arrivée de Marchessault, ça fait beaucoup de, tu sais, ça fait beaucoup de portions de tarte à répartir. Donc, j'ai l'impression que Gustav Nyquist va écoper. Donc, pour moi, on ne le repêche pas. On ne repêche pas comme un joueur de 75 points, peut-être plus comme un joueur de je sais pas moi, une cinquantaine de points. Ça serait un peu plus réaliste. Donc voilà, j'éviterai Gustav Nyquist pour ces raisons-là. Ben, en fait, pas éviter, mais je resterai, je glisserai de quelques rangs sur ma liste de repêchage.
Seb?
Mon premier joueur, ça va être Dylan Strome chez les Capitals. L'année dernière, a été le meilleur pointeur de l'équipe à 67 points. A été, je veux pas, c'était le centre numéro un par défaut. On n'avait plus de... d'Evgeny Kuznetsov, on n'avait plus de Niklas Backstrom. Et là, j'en ai déjà parlé, on aime ça faire bien paraître les patrons, donc l'arrivée de Pierre-Luc Dubois va menacer le statut de Dylan Strome. Je ne dis pas qu'il ne faut pas repêcher du tout Dylan Strome, c'est juste que son statut de centre de premier trio, de peut-être même la présence de la première vague du jeu puissant, va être mis en danger par l'arrivée de Dubois. Je pense que cette saison... j'opterais pour Pierre-Luc Dubois avant Dylan Strome, juste pour l'aspect court terme là, de toutes les chances qu'on va vouloir donner à Pierre-Luc Dubois de faire on veut bien faire paraître le joueur. Je pense qu'il y a une motivation extrême de faire oublier sa première et seule saison chez les Kings. C'est un joueur qui a encore du talent. Donc, je pense que Pierre-Luc Dubois, cette année, représente un meilleur investissement que Dylan Strome.
Moi, je suis en désaccord avec ça. Je sais pas, moi, je trouve à deux saisons de 60 points, ça a été un joueur super constant à Washington. Moi, je vois pas pourquoi l'entraîneur ferait comme oh, on vient d'aller chercher du bois, faut tout y donner, pas poser de questions. Je veux dire, t'es un gars qui a été un joueur super constant, super bon pour ton équipe. Puis, ah, ben, gars, excuse-moi, Dylan, mais Pierre-Luc arrive, faut faire bien. Tu sais, je comprends l'idée de bien faire paraître le DG. Puis, mais moi, je pense que Dylan Strome, la saison dernière, a prouvé que ça fonctionnait bien avec Ovechkin. Je vois pas pourquoi il resterait pas sur le trio Ovechkin. C'est un duo qui a bien fonctionné pendant la majeure partie de la saison. Donc, je comprends l'idée de vouloir faire bien paraître Pierre-Luc Dubois, mais au contraire, moi, je pense que c'est Pierre-Luc Dubois qui a quelque chose à prouver. Fait que t'arrives... Tu commences sur le deuxième trio, puis prouve-nous que tu mérites de prendre la place comme, à Dylan Strome. Je ne vois pas Strome. Pourquoi la logique serait contraire, moi, personnellement. Je comprends si tu vas chercher, je dis, les Capitals seraient allés chercher, je n'importe quoi, seraient allés chercher Braden Point. Mais tout le monde sait que Braden Point, c'est un centre supérieur à Dylan Strome. Là, je le mettrais devant Dylan Strome, mais...
Mais il ne faut pas oublier que Strome et Ovechkin, l'année dernière, n'ont pas bien fonctionné pendant la grande majorité de l'année. Les deux joueurs se sont mis à débloquer quand ils n'ont plus joué ensemble. Ça reste limité les ressources en dehors d'Ovechkin chez les Capitals. Donc, ça a été peut-être un hasard, entre guillemets, là, que Strome et Ovechkin connaissent plus de succès une fois qu'ils ont été séparés.
Il jouait avec qui à ce moment-là, Ovechkin?
Ovechkin s'est mis à jouer avec...
Jean Blanc. Lapierre, attendez. Là.
Je pense mais il a joué avec un petit peu tout le monde. Ça a été la chaise musicale, Connor McMichael, peut-être, par un petit bout.
Je vais aller voir, je suis curieux. Continue, Seb.
Mais ce que je veux dire, c'est de dire qu'on va les séparer. Ils ont déjà été séparés parce que ça n'a peut-être pas... Ça n'a pas tant fonctionné en début de saison. Il y avait la malchance là-dedans, tout ça. Dylan Strome a bien, très, très bien fini l'année, mais pas aux côtés d'Ovechkin. Donc, de là à dire qu'ils vont comme être remplacés, je pense que la capacité d'Ovechkin a joué principalement avec McMichael et TJ Oshie, qui n'est plus là, en fin de saison. Donc, c'est le genre de relation.
Mais est-ce que... Je vais vous séparer, les gars. Est-ce que...
On va se
Pierre-Luc Dubois. Non, mais est-ce que Pierre-Luc Dubois, dans son style, quand il est à son meilleur, amène plus à Ovechkin que Dylan Strome? Qui peut amener le plus sur papier à Alex Ovechkin? C'est ça que tu soulèves comme point, Seb.
Je pense que c'est Pierre-Luc Dubois. Là-dessus, oui, je rejoins Seb. Moi, je rejoins pas Seb. C'est juste que on va arriver, on va faire table rase, puis ça va être OK, faut tout donner sur un plateau d'argent à Dubois. Moi, je pense que Dubois va quand même devoir se prouver à Washington. C'est pour ça que moi, je mettrais pas Strome dans les choix risqués. Je mettrais Dubois dans les choix risqués avec ce qu'il a fait dans les dernières saisons. Strome dans les dernières saisons, c'est même avec. OK, on peut avoir le débat avec Ovechkin ou pas, mais avec ou sans lui, il a quand même fait 65-67 points les ces deux dernières saisons, ce qui est quand même très bon dans un pool de hockey.
Il l'a fait, mais l'a fait avec des joueurs avec qui il aurait pas dû, comme entre guillemets, produire autant. T'sais, Alexei Protas, je pense qu'il était un de ses compagnons de trio, il est pas supposé être une menace offensive, mais pourtant, c'est une fois qu'il a commencé à jouer avec lui que Dylan Strome a explosé. Donc, j'ai un petit peu de misère à voir ça se répéter. Si on m'avait dit que Dylan Strome va jouer premier trio avec Ovechkin, Sans aucune compétition. Je leur dis, oui, ils vont trouver une façon de faire fonctionner les choses. Mais est-ce qu'on a un remplaçant potable en Pierre-Luc Dubois? Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, ben je vois pas encore Dylan Strome exploser avec Alexei Protas à ses côtés.
Et là, je pitch un wrench dans vos roues de bicycle, mais est-ce que la voie est barrée vers le premier trio pour Hendrix Lapierre avec ces deux-là devant?
Moi, je pense que oui.
Pour cette saison, oui.
À long terme, c'est ça.
Puis je vois même un joueur comme, exemple, Connor McMichael, comme un autre qui peut être devant. Tu sais, c'est toutes des questions de rôle. Mais oui, à court terme, oui, c'est. C'est pas accessible pour le moment.
Je reprends mon wrench. Et j'y vais avec. moi, ma suggestion de joueur choix risqué. Philippe Roenick, défenseur du côté des Canucks de Vancouver. Tu te souviens, l'année passée, début de saison, ça fonctionnait à merveille. Il était avec Quinn Hughes. 36 points dans ses 42 premiers matchs. C'était sa dernière année de contrat. À ce moment-là, il est au sixième rang des marqueurs. Tout va bien. Puis lors du reste de la campagne, ben seulement 12 points dans les 39 dernières rencontres. Il termine à 48 points. C'est bon, c'est un record personnel, mais tu sais, faut gérer. Là. Je pense pas que Roenick, ce début de saison-là, il peut le revivre. Surtout que les Canucks, peut-être que Quinn Hughes et Roenick ensemble, c'est pas la meilleure décision. En ce sens que c'est deux défenseurs qui ont une belle touche offensive. Quinn Hughes meilleur que Roenick, oui, mais quand même. Et tu veux peut-être les séparer pour avoir une bonne relance sur tes deux premières paires, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. Là, les Canucks, c'est Tyler Myers, Carson Soucy, Derek Forbort, Vincent Desharnais environ. Là, donc, peut-être qu'un mouvement de personnel. Là, donc, je m'attends pas à ce que Roenick... Peut-être que Roenick va être avec Hughes, peut-être pas. Mais en plus, il n'y aura pas d'avantage numérique, de premier avantage numérique. Donc, c'est un joueur que, tu sais, je pense 40 points. 40 points, c'est un bon... Tu sais, c'est une belle place pour lui. Mais je m'attends pas du tout à une amélioration, une progression de cette performance-là, même s'il a signé quand même un gros contrat, là, 7 quelques millions, là, je crois, là, dans le cas de Roenick. Donc, passez-y bien. Hugues, ton deuxième choix.
Ben moi, je reste chez Canucks. Je vais y aller avec Brock Besser, qui, l'année dernière, enfin, a atteint le plateau des 30 buts, et même plus, atteint le plateau des 40 buts. C'était une saison de rêve pour lui. Par contre, je pense pas moi, qu'il va rester un. Qu'il peut revenir à une quarantaine de buts, même 73 points, je pense que c'est trop élevé. Pour moi, Brock Besser, c'est un joueur de 30 buts, 30 passes. Je pense pas qu'il va faire beaucoup plus que 60, 65 points. L'année dernière, a marqué 40 buts en marquant sur près de 20% de ses tirs. Sa moyenne en carrière, c'est 13,8. Donc, un peu de chance de son côté. Dans une équipe des Canucks qui marquait, on se souvient au début de la saison, on dirait que tout fonctionnait pour les Canucks, tous les joueurs fonctionnaient à plein régime. Et quoi que Besser, même quand ça s'est mis à ralentir un peu, lui, il a quand même continué un peu, mais je le vois pas revenir à ça. Il est souvent blessé, donc j'ai mes doutes sur lui.
Besser, je lisais un peu l'année dernière sur lui, puis ce qui faisait la différence, puis il expliquait qu'il a complètement changé son style de jeu. Il a compris à la Chris Kreider, en quelque part, là, que c'est en périphérie du filet, vraiment aux embouchures, pas juste de manger des coups de bâton en avant du filet, mais vraiment d'aller se placer en périphérie puis d'utiliser son tir en se retournant, qu'il s'est mis à marquer des buts, qu'il s'est mis à être vraiment plus utile aux Canucks. Donc,
penses-tu qu'il peut revenir à 40 buts?
Je pense pas qu'il peut revenir à 40 buts.
Mais mettons 35, puis là, 40.
Puis là, c'est qu'on a su là, dernièrement, là, il y a quelques heures, quelques jours. Lui, il a manqué. On se souvient du dernier match des séries éliminatoires contre les Oilers parce qu'il y avait des caillots sanguins. Ouais. Il n'y a pas eu un été complet d'entraînement. Puis ça, moi, je prends tout le temps, là, je mets tout le temps un petit bémol quand je vois qu'un joueur a manqué un peu de sa préparation estivale. Donc ça lui fait mal, mais je veux juste pas le redescendre trop parce que quel est son plafond avec sa nouvelle façon de jouer, je le sais pas. 40, c'est un gros chiffre, c'est un chiffre rond. J'aime pas le chiffre rond qui est 40, là. Mais tu me dirais 30-35, là. Puis pas baisser tant que ça. Je fais juste dire aux gens, partez pas en peur. Moi aussi, je comprends que ça fait peur, la production de Besser l'année dernière, mais partez pas en peur non plus. Ça se peut qu'il fasse quand même bien. Surtout, c'est Elias Pettersson connaît du succès, JT Miller connaît. Les Canucks ont un potentiel super intéressant en attaque. Faudra voir quand même, parce que là, ça va être la troisième saison, la deuxième complète, là, mais troisième saison, 2,5 là, pour Rick Tocchet. Des fois, c'est là qu'il commence à avoir un petit peu de sable dans l'engrenage ici et là. Faudra voir, surtout avec la situation de Demko devant le filet. Donc, faudra voir. Là. Seb, ta non-recommandation, si je peux dire?
Je vais y aller avec Chandler Stephenson, un des joueurs. Un des noms les plus convoités, disons, sur le marché des joueurs autonomes cet été, signé un contrat assez important avec le Kraken de Seattle. Un joueur qui a atteint le plateau des 60 points à deux reprises dans les dernières saisons. Une petite baisse l'année dernière à une cinquantaine de points.
Joueur honnête.
Joueur qui était un joueur que tu aimes avoir dans ton équipe.
Joueur super honnête, là, vraiment. Là.
Exact, mais bon, tu sais, amassé un bon an, maintenant 13, 14, 15 points sur le jeu de puissance avec les Golden Knights. Je pense pas qu'on va lui donner nécessairement une place sur le premier jeu de puissance à Seattle. La qualité des joueurs autour de lui va baisser. Il a joué surtout avec Mark Stone l'année dernière. Mark Stone qui est un des bons ailiers de la Ligue nationale. Donc, on risque de plus confier des mandats, je dirais, plus défensifs, entre guillemets. On a des Matty Beniers qui vont vouloir peut-être donner un rôle plus offensif. Shane Wright va bientôt prendre sa place. Donc, Chandler Stephenson, il ne faut pas penser que parce qu'il a été acquis à gros prix, ça va l'aider à booster en bon français ses statistiques. Je pense que Chandler Stephenson ne répétera pas le son total de points de l'an dernier et encore moins revenir à la soixantaine de points par match.
Y a-tu un peu là-dedans, Seb, tu penses, de relance, d'une idée de relancer Matty Beniers en disant, regarde, on amène un centre qui peut jouer, prendre des missions un peu plus défensives, puis on te libère, on te donne plus de cordes, on te donne des situations un peu plus faciles, un peu plus offensives, parce que ça a été tough pour Matty Beniers. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça derrière la décision d'amener Stephenson.
Ah, tout à fait. Écoute, puis c'est normal et c'est correct de prendre un jeune joueur qui s'est quand même très bien débrouillé puis qui a un petit creux de vague, qui disait, ben écoute, on va t'en enlever un peu, prends ton souffle, ça repose pas sur tes épaules. Je suis 100% d'accord avec toi, ça fait partie de la stratégie.
Finalement, mon dernier choix, et on le connaît à Montréal, c'est Kirby Dach. Kirby Dack, qui est un joueur qui, bon, troisième choix au pêchage, on le voyait grand, mais les blessures dans les dernières années ont vraiment ralenti, contrecarré son développement. C'était avec l'équipe Canada. L'année dernière, c'était le genou. C'est des blessures importantes en plus. Donc, Kirby Dack n'a pas joué beaucoup de hockey. Là, somme toute, il lui manque deux saisons là, à peu près là, sur les quatre dernières. Donc là, on écoute à Montréal, puis les gens, si Kirby Dack devient Kirby Dack qu'on attend, les Canadiens vont avoir deux trios, ça va être magnifique, puis ça y est, ça sent les séries. Puis oui, mais peut-être pas, puis probablement pas. Puis probablement que, vu qu'il n'a pas joué l'année dernière, même en ayant un super, super été d'entraînement, puis bon, l'équipe a dit, le monde a dit que... Ils l'ont placé dans une situation où ça ressemblait un peu au maximum à des situations de jeu puis tout ça pour lui permettre de revenir au rythme de Ligue nationale de hockey. La réalité, c'est qu'il n'a pas le rythme de Ligue nationale de hockey. Donc, soyez prudents, Kirby Dax. Surtout, c'est une jeune équipe aussi. Il faudra voir. Un Alex Newhook, l'année dernière, a pas mal fait. Il peut jouer au centre, Newhook. Donc, est-ce que Kirby Dax, finalement, peut se retrouver sur le troisième trio? Est-ce qu'il va rester en santé? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. T'sais, prenez pas la projection offensive de Kirby Dack sur 82 matchs comme du béton, parce que justement, il y a peut-être un peu de pyrite et de pyrotite dans le béton. Là.
Moi, j'irais en disant que je suis d'accord que ça risque d'être difficile en début de saison, trouver le rythme après avoir manqué aussi longtemps. C'est peut-être une occasion, par contre, si vous voyez que ça se déroule un petit peu moins bien pour Kirby Dack en début de saison, de t'en lancer des lignes à l'eau aux propriétaires de Kirby Dack. Parce qu'on a vu des joueurs qui manquent l'été d'entraînement ou qui ont manqué des longues périodes. Je prends comme exemple Anthony Duclair l'année dernière qui a eu un très lent début après avoir eu une longue convalescence, puis c'est bien ressaisi. Donc, Kirby Dack, puis on en a déjà parlé, il y a des options pour Kirby Dack. Il s'est débrouillé très bien avec Juraj Slafkovský. S'il décide de mélanger les choses un peu, puis on équilibre les deux premiers trios, ça pourrait relancer un joueur contre Kirby Dack. Ça pourrait devenir une très belle chance de faire un bon coup.
Un petit vol par échange. Là.
Exactement.
Je vous emmène sur un sujet totalement différent, les gardiens de but. Dans notre premier épisode de Balado, on a parlé du top 10, mais là, je veux plus le top 50, c'est-à-dire des gardiens peut-être, des adjoints qui pourraient finalement jouer un rôle plus important, qui peuvent être une petite carte comme troisième gardien peut-être dans votre pool, qui vous voyez dans des rôles comme ça, ou surprendre là, tout simplement. Hugues?
Ben moi, c'est vraiment peut-être un gardien qui est plus... ce qu'on qualifierait plus de sleeper, je m'excuse du terme anglais, j'ai pas de carte cachée. Ouais, vraiment, mais très caché. Là. Okay, c'est Justus Annunen, le gardien auxiliaire de l'Avalanche du Colorado. Pour la simple et bonne raison qu'on regarde les statistiques de Georgiev. Premièrement, Georgiev a joué 62 matchs la saison dernière. Oui, 38 victoires, mais un pourcentage d'arrêt de 897, une moyenne de 3,02. Donc, c'est pas des très bonnes statistiques périphériques. Je pense que l'Avalanche aurait avantage à équilibrer un petit peu plus les responsabilités devant le filet. Annunen peut probablement en prendre un peu plus. Puis c'est un gardien qui, dans un échantillon très limité, a quand même bien fait l'an dernier avec une fiche de 8-4-1 et des bonnes stats périphériques, là, 928 de pourcentage d'arrêt, 2,25 de moyenne et même deux blanchissages dans les 12 départs qu'il a obtenus. Donc, c'est simplement un gars à garder un œil sur lui. Tu sais, c'est dépendamment de votre format de pool, il sera peut-être même pas repêché, mais si vous avez un ballotage, tu sais, en cours de saison, vous pouvez réclamer des joueurs qui sont libres. Surveillez le début de saison d'Annunen où vous prenez une chance, puis peut-être que vous allez bien paraître à la fin de la saison, peut-être qu'il va être allé vous chercher quelques victoires parce qu'il va jouer derrière une équipe qui va quand même gagner sa part de match.
Elle devrait, logiquement. Seb?
Je vais commencer avec Lucas Dostal chez les Ducks d'Anaheim. Les rumeurs qui concernent John Gibson, là, ça, on est rendu habitué, ça fait des années qu'on en entend parler.
Qu'on se dit à un moment donné, il va finir par jouer pour une équipe qui gagne.
Exact. C'est un joueur qui a un excellent gardien qui a eu ses meilleures années, en tout cas les très belles années de sa carrière, à être bombardé, qui a tenu le fort comme il pouvait. Le corps n'a pas toujours suivi. Lucas Dostal, jusqu'à maintenant, fait très bien. D'ailleurs, la même équipe que Gibson l'année dernière a montré de meilleures statistiques. Donc, Lucas Dostal, on a parlé à quel point les Ducks sont pas loin d'être une bonne équipe. Dès cette année, s'il devait, si un, John Gibson devait se blesser, ce qui arrive quand même régulièrement, ou s'il devait finalement changer d'adresse, ça serait pas. Il y aurait encore moins de compétition pour Dostal. Et cette équipe-là, sans dire qu'on ne pense pas qu'ils vont s'approcher des séries ou quoi que ce soit, mais va être meilleure que l'an dernier, probablement.
Je vais juste amener le point suivant. Souvenez-vous, le début de saison l'année dernière des Ducks, là, oh, c'est fait. Ils sont sortis de la reconstruction. Tout allait bien. Là. Après 20% de la saison, là, bon, c'était 80% qui a suivi le problème, là, mais le premier 20%, les Ducks. T'sais, donc, cette année, ils ont cette expérience-là en plus. Ils ajoutent un Cutter Gauthier. Si Trevor Zegras est revenu, c'est une équipe qui peut tourner la page, qui peut tourner le coin, tu sais, quand même. Puis là, Dostal, si justement Gibson est tassé, Dostal devient le gardien probablement d'avenir de cette concession-là. C'est intéressant, Seb. Là.
Ah, tout à fait. Puis, cette année, là, on parle pour cette année, il peut devenir intéressant pour. Quand on est rendu à son deuxième gardien, c'est qui qu'on sélectionne ou c'est le ballottage, comme Hugues disait tout à l'heure. À long terme, et en fait, pas tant à long terme, là, à moyen terme, peut-être 2 ou 3 ans, pourrait devenir là, un gardien d'impact. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur lui dans vos dernières rondes de repêchage cette année, pourrait être très payant assez rapidement.
Je vais y aller avec mon choix, Arthur Sosilov, du côté de Vancouver. Ben, j'en ai parlé à Thatcher Demko, son état de santé, c'est y a rien de certain. C'est un gardien qui s'est blessé quelques fois. Puis quand tu commences à avoir des blessures sur blessures pour un gardien, c'est jamais bon signe. Slov a bien fait en ses éliminatoires. On se souvient là, quand même. Là, peu d'expérience. Donc, attends, je pense pas qu'il va être beaucoup choisi dans vos poules. Parce que si tout va bien, ben Demko va être devant le filet pour au moins 55 matchs. Mais c'est un joueur à garder un œil dessus, mon autre choix. Mais lui, il me semble qu'on en parle à toutes les années. Là. Mais Pietro Kochetkov, là, chez les Hurricanes de Caroline. Bon, la mort, les taxes, puis Frederick Anderson qui se blesse. Là, on s'entend que c'est un refrain qui revient souvent en Caroline. Mais la réalité, là, c'est que bon, Kochetkov, 25 ans, il est prêt pour un poste de numéro 1. Frederick Anderson, par contre, à son retour, a été splendide, là, vraiment splendide. Donc, je m'attends quand même à ce que Anderson soit le numéro 1. Mais il va falloir laisser plus en plus de départs à Kochetkov éventuellement. Il a joué 42 matchs l'année dernière, 911 de taux d'efficacité. C'est très bien. Il y avait une bonne défensive devant lui. Ça va être moins le cas cette année avec les départs de Brett Pesce, avec le départ de Brady Shea. Mais quand même, c'est un gardien qui est prêt. Puis peut-être qu'il va être, ça va être possible de le prendre un petit peu plus bas dans le pool, dans votre pool, parce que justement, à cause des départs des deux défenseurs. Là. Seb?
Je vais y aller avec Samuel Ersson chez les Flyers. La carte cachée, c'est devenu le partant par défaut là, quand Carter Hart a été écarté là, des activités de la Ligue nationale. Donc, a été le gardien numéro un pendant la majeure partie de la saison chez les Flyers. Même si Ivan Fedotov risque d'avoir quand même un certain nombre de départs, Samuel Ersson, même si ça n'a pas été toujours impeccable, a montré qu'il peut faire le travail. Puis cette équipe-là a failli faire les séries. Cette équipe-là va encore se battre potentiellement pour une place en série. Donc, va signer quand même un certain nombre de victoires. Puis c'est le genre de gardien où quand on arrive au... on a un gardien établi, puis on en cherche un deuxième qui a besoin de signer des victoires. Bien là, il devient vraiment dans le haut de la liste de la deuxième moitié des partants. Là. Donc, ça... à court terme, parce que je pense qu'à long terme, on va probablement aimer, on va vouloir voir ce qu'Ivan Fedotov va pouvoir donner. Mais cette année, Samuel Ersson, dans les noms moins connus, risque d'être un de ceux qui vont donner le plus de victoires aux Pouleurs. Il faut faire attention à ses statistiques périphériques, pas toujours excellentes, mais c'est quand même un nom à retenir.
Hugues?
Ben, je conclue le segment avec Ilya Samsonov qui. Maintenant, avec les Golden Knights de Vegas...
Ice la bonne.
Ouais, mais on dirait que je... Je sais pas pourquoi je crois tout le temps ce gars-là.
C'est...
Mais, moi, je sais pas si je suis le seul. Mais on dirait que j'ai toujours cru en ce gars-là. Mais j'ai l'impression, tu sais, à Toronto, il fallait qu'il soit l'homme de confiance, l'homme de la situation. Puis il a un peu croulé, en fait. Il a beaucoup croulé sous la pression.
À Washington aussi, là.
À Washington aussi. J'ai l'impression, à Vegas, je m'attends à ce que ce soit un petit peu différent. Premièrement, il va avoir Aiden Hill avec lui. Donc, il n'y aura pas à être le sauveur devant le filet. Puis deuxièmement, on va. Tu sais, je pense, Vegas, c'est tout. En tout cas, dans les dernières saisons, c'est une équipe qui aimait beaucoup la philosophie du système d'alternance devant le filet. Donc, je m'attends à peut-être un peu la même philosophie qui se poursuit. Donc, un peu moins de pression quand tu n'es pas toujours celui sur qui on compte. Puis, ça a bien fonctionné, là, ce système-là. Je regarde l'année dernière, 35 départs pour Aiden Hill, 42 pour Logan Thompson. Les deux, tu sais, Thompson à 25 victoires, Aiden Hill à tout près de 20 victoires, ce qui est vraiment pas mauvais quand on cherche un gardien de profondeur dans notre pool. Donc, je garderai un œil sur Samsonov, un œil prudent, mais quand même, les conditions dans lesquelles il va jouer ne seront plus les mêmes du tout qu'à Toronto. Peut-être que ça va lui permettre de prendre son envol officiellement.
De toute façon, un gardien qui se blesse du côté de Vegas, c'est la norme. C'est le quotidien. Là. Donc, c'est très possible que soudainement, Samsonov, sa chaise change rapidement. On passe au prochain segment. Segment qu'on a appelé « Je prends une chance ». Donc, honnêtement, un joueur qui n'est pas sur votre liste probablement ou très, très tardivement. Donc, pour les rondes très tardives de votre pool, mais qui, on ne sait jamais, pourrait finalement être un beau coup de circuit. Seb, vas-y.
Moi, bon, je commence avec un joueur que j'ai... en fait, c'est plus un souhait, parce que j'ai patiente en son cas depuis maintenant quelques années.
C'est pas de même, ça marche, ça, les poudres.
Oui, mais par contre, je pense que c'est la bonne. Moi, je parle de Jonathan Berggren chez les Red Wings de Détroit. Avait beaucoup, quand même, bon, tu sais, un choix très hâtif de deuxième ronde en 2018. Puis dès son arrivée en Amérique du Nord, ça fait presque un point par match dans la Ligue américaine. Puis quand il est arrivé la saison suivante, il a quand même marqué 15 buts à sa saison recrue dans la Ligue nationale. Donc, je pensais vraiment que là, on allait le voir obtenir plus de responsabilités. Le problème pour lui, c'est qu'à Détroit, c'était facile de le retourner dans la Ligue américaine vu sa situation contractuelle. Cette année, ce n'est pas le cas. Mais, puis on parle d'un joueur qui aurait pu, bon, peut-être des joueurs qui auraient pu bougonner dans leur coin ou quoi que ce soit, mais retourner dans la Ligue américaine, 56 points en 53 matchs. Seulement joué 12 matchs l'année dernière dans la Ligue nationale. Donc, cette année, c'est un joueur qui va s'imposer. On parle d'un joueur de petit gabarit, mais quand même un petit taupin en bon québécois. Un petit joueur trapu qui a à tenir son bout. Il me fait peur, quand même plus gros que Logan Stankoville, mais bon, un joueur qui va être capable de provoquer des choses en attaque. Qui n'a pas peur d'aller dans la circulation. Ce joueur-là ne peut plus retourner dans la Ligue américaine, n'aura pas le choix de le garder et je pense qu'il ne lui donnera pas le choix à l'équipe de le placer sur un trio offensif.
C'est la première fois que j'entends le mot « taupin » utilisé de la sorte.
Merci.
Et là, je viens d'aller voir la définition, tu as entièrement raison, mais je ne croyais pas que le mot « taupin » voulait dire « joueur de forte constitution, sans talent remarquable, dont le rôle est de faire de l'obstruction auprès de joueurs talentueux, de provoquer des batailles. » Donc. Bravo pour ton vocabulaire, Seb. J'apprécie beaucoup d'élever le fait que tu élèves le niveau du balado. Hugues.
Je t'ai instructé.
Oui, je vais me coucher plus culturé ce soir. Hugues.
Moi, je prends une chance avec Alexander Holt qui est passé des Devils aux Golden Knights. On en a parlé plus tôt. Chandler Stephenson qui est rendu avec le Kraken de Seattle. Jonathan Marchessault qui est rendu avec les Prédateurs de Nashville. Il y a des cartes qui bougent là, à Vegas, donc il y a une porte qui s'ouvre sur le top 6. Point possible qu'Alex Holt s'installe là avec Vegas parce qu'il y a encore du talent, donc il y a une réelle possibilité qu'il puisse tirer son épingle du jeu dans ce rôle-là. On sait que c'était le problème avec les Devils du New Jersey, il n'y avait pas de place pour lui, donc on verra ce que ça va donner, mais tu sais, on lance un petit dart sur le tableau et tu ne sais jamais ce que ça peut donner, un long shot, donc on prend une chance avec Alex Holt.
Ma première suggestion, c'est peut-être moins un long shot, là. Peut-être que j'ai été un peu facile, là, mais la raison pourquoi je l'ai mis dans la liste, parce qu'il y a eu deux blessures importantes quand même l'année dernière, donc il a juste seulement joué 27 matchs, mais Jack Quinn, du côté des Sabres, justement, va peut-être passer un peu dans l'anonymat là, dans votre pool, mais 19 points en 27 matchs l'année dernière avec les Sabres, joueur très talentueux, 8e choix du repêchage 2020. Il est prêt pour la Ligue nationale de hockey. Il devrait être sur le deuxième trio des Sabres avec Alex Tuch. Deuxième avantage numérique aussi. Donc, c'est un beau profil. C'est un bon joueur dans la Ligue américaine l'année passée. Plutôt en 2022-23, il a fait 37 points en 75 matchs avec les Sabres. Donc, c'est sa troisième saison. Je pense que gardez un œil parce que ça se pourrait qu'il soit encore disponible tardivement là, dans votre pool en raison des blessures. Seb, ton deuxième candidat?
Ça devrait s'appeler, je prends une autre chance, probablement une chance. Dernière chance avec Scott Perunovic chez les Blues de Saint-Louis.
Avec ta chance.
Prendre une chance avec un joueur qui, à 26 ans, n'a toujours pas marqué un seul but dans la Ligue nationale.
C'est malheureux quand tu te lèves le matin, il y a une ambulance dans ta cour. Là, c'est,
il n'a jamais marqué Scott Perunovic.
Zéro but, 23 passes.
C'est quand même.
C'est cette année que ça se passe. Là.
Promis. Non, je ne peux pas te promettre ça. Mais en fait, c'est sûr que la blessure à Torrey Krug va rouvrir la poste. On a fait l'acquisition de Philippe Broberg de façon très agressive. Justin Falk est toujours là. Par contre, on a parlé de Lane Hudson tout à l'heure. Si Scott Perunovic est dans ton alignement, s'il est en santé, enfin, il doit pivoter la première vague du jeu de puissance. Et les Blues, cette année, écoute, on a fait le plein. Là, on a des options là, très intéressantes en attaque sur Robert Thomas, Jordan Kyrou, Pavel Buchnevich. On a des bons jeunes joueurs comme Neighbor, comme Bolduc. On va sûrement donner plein de chances à Dylan Holloway de s'établir avec l'offre hostile qu'on lui a donnée lui aussi. Donc, la première vague du jeu de puissance des Blues va être efficace. Et ici, c'est Scott Perunovic qui finalement, écoute, c'est un joueur que sur lequel j'ai découragé, j'ai démissionné à de nombreuses reprises. Mais là, cette année, je prends une dernière chance avec Scott Perunovic dans votre fin de repêchage là, de dernière ronde qui pourrait vous donner un défenseur de 40 points qui traîne en 12e ronde, ben ça sera lui.
Nick, si tu me permets d'enchaîner, parce que moi aussi, je suis un défenseur qui approche de sa dernière chance. S'il n'est pas à sa dernière chance, c'est Adam Boqvist avec les Panthers de la Floride. Lui aussi, c'est un autre qui est souvent blessé, comme Perunovic, un joueur fragile, un joueur qu'on le sait que le potentiel offensif il est là. C'est un ancien choix de première ronde assez élevé.
On avait donné, c'était le joueur clé là, dans la transaction Seth Jones.
Effectivement, c'était le gros, ça devait être le Golden Boy des Blue Jackets quand on l'a acquis, puis ça n'a vraiment pas fonctionné. Il se retrouve maintenant chez les Panthers de la Floride qui, eux, ont dit au revoir à Brandon Montour cet été. Donc, se retrouve un peu sans, je ne veux pas dire sans carrière du jeu de puissance parce qu'il y a Aaron Ekblad qui peut quand même faire le travail. On a Gustav Forsling qui, à mon avis, n'aura pas ce rôle-là parce qu'on va le déployer dans un rôle qui va être un peu plus défensif. Donc, est-ce que Boqvist pourrait se retrouver à la tête d'un jeu de puissance en Floride? Peut-être. Et il va évoluer dans une équipe qui a beaucoup de talent offensif. Donc, s'il peut rester en santé, est-ce que c'est enfin la saison où ça va se passer pour lui? Ça reste à voir. Donc, tu sais, il arrive tout un moment du repêchage dans votre pool où là, vous devez comme finir d'aller chercher vos défenseurs, puis on dirait qu'il ne reste plus de défenseurs vraiment intéressants. Puis c'est soit tous des défenseurs défensifs qui ne feront pas vraiment beaucoup de points, soit des gars avec des points d'interrogation comme ça, ben peut-être prendre un gars avec un point d'interrogation comme Boqvist, que le plafond est plus élevé qu'un gars qui, oui, va peut-être jouer les 82 matchs, mais va faire juste 20 points. T'sais. Fait que c'est un pensée bien. Mais juste peut-être garder en tête, c'est ça, la situation de le départ de Montour, la situation avec le jeu de puissance des Panthers.
De mon côté, pour terminer le segment, je vais y aller avec Nick Robertson du côté des Maple Leafs. Écoute, Robertson, ça fait longtemps qu'il attend. Lui aussi a été ennuyé par les blessures, mais là, aurait même demandé une transaction aux Maple Leafs cet été. Ça ne s'est pas fait. Le pourquoi, ben peut-être que c'est le temps pour lui. Peut-être qu'on va lui ouvrir la porte sur un des deux premiers trios. Tout dépend de ce qu'on va faire avec Max Domi. Est-ce qu'on va le mettre au centre du troisième trio ou on l'utilise sur le deuxième? Sinon, à gauche, c'est Bobby McMahon qui a connu quelques bons flashs l'année dernière, mais qui, somme toute, là, c'est un vétéran, un joueur qui est passé bien près d'être ce qu'on appelle un career minor leaguer, là, un joueur de ligue mineure de carrière. Pontus Holberg et Connor DeWar. Donc, et Robertson, c'est le type de joueur. il ne peut pas jouer sur ton troisième, quatrième trio. Il faut qu'il soit sur un de tes deux premiers trios. C'est un gars, écoute, il n'a pas le talent de son frère, là. C'est pas le talent de Jason Robertson, mais quand même, dans la Ligue américaine, a tout brûlé. Là. Il roule à un point par match depuis 4 ans là, ou presque là, dans la Ligue américaine. L'année dernière, 27 points en 56 matchs avec les Leafs. Je veux dire, il est prêt, là, mais c'est juste une question de ce qu'il est assez fiable et assez assez fiable, assez constant pour jouer sur les deux premiers trios des Maple Leafs. C'est ce qu'on va savoir. Mais comme tu disais tantôt, Hugues, à propos de Nice, à propos de Matthew Nice, si tu joues sur les deux premiers trios des Maple Leafs, tu devrais accumuler ta part de points. Donc, Nick Robertson, peut-être un joueur à surveiller en fin de poule pour vous. Hey, messieurs, dernier segment avant de mettre un terme à ce deuxième balado spécial Poolers. On va y aller en rafale. 10 confrontations. En confrontation, je vais appeler ça comme ça. 10 confrontations. Vous me dites qui va amasser le plus de points entre les deux joueurs. Pas besoin de me dire pourquoi tout ça. Je veux juste une réponse. Je vous mets un contre l'autre. Le premier, puis ça a été probablement la confrontation par excellence l'année dernière pour le trophée Norris. Cale Makar, Quinn Hughes. Qui amasse le plus de points, Hugues?
Cale Hughes? Non, je vais dire Cale Makar.
Je vais avec Quinn Makar? Non, ça va être Cale Makar.
Jake Guentzel ou Steven Stamkos?
Pour moi, c'est assez facilement Jake Guentzel.
Pas tant facilement, mais Jake Guentzel.
Mitch Marner ou William Nylander?
Mitch Marner.
J'aime mieux Mitch Marner, le joueur, mais je vais y aller avec Nylander. Mais ça va être très serré, mais je pense qu'on va prendre William Nylander.
Chez les Devils, Dougie Hamilton ou Luke Hughes?
Ça, c'est une tough.
Ça dépend, qui est en santé. Hein?
Je vais y aller avec Luke Hughes. Ouais, je vais y aller avec Luke Hughes.
Dougie Hamilton, en santé, il a plus de points que Luke Hughes, c'est sûr et certain.
Je suis d'accord avec toi, Seb. Thomas Chertel ou celui qui a été remplacé chez les Golden Knights, Jonathan Marchessault?
Moi, ça va être Chertel.
Ça va être serré, mais je vais dire Marchessault. Je pense que les deux joueurs vont une soixantaine de points, 65 peut-être côté de Marchessault. Donc, un petit peu plus.
Seth Jarvis ou Martin Nekash?
Seth Jarvis.
Seth Jarvis aussi, C'est l'homme de la situation parce qu'on lui a accordé le contrat. Nekash, je pense qu'il va avoir une très bonne saison, mais peut-être ailleurs.
Un cas où tout dépend qui joue où, c'est ça? Tout dépend quel trio, dans le fond, là, pour Jarvis et Nekash. Un autre cas de où tout va dépendre de qui joue avec qui. Patrick Laine, Cole Caulfield.
Les blessures me font pencher vers Cole Caulfield.
Cole Caulfield, sauf si vous êtes un gambler.
Ilya Sorokin ou Semyon Varlamov? On sait ce qui s'est passé l'année dernière.
Oui, on sait ce qui s'est passé, mais tu peux juste pas miser contre le talent royal avec Sorokin.
Pareil.
Chez les défenseurs, Moritz Seider ou Jake Sanderson?
Oh là là! Oh là là, Seb, je te laisse commencer le temps que je me décide.
Ça sera Maurice Tider. Oh.
Moi, je vais y aller avec Jake Sanderson.
J'aime ton choix, Hugues. Et finalement, la dernière confrontation, Nick Suzuki ou Mathew Barzal?
C'est Suzuki pour moi.
Je confirme, ça sera Suzuki.
Si je vous dis Nick Suzuki et Mathew Barzal dans une autre équipe,
ça dépend laquelle.
Ouais, c'est ça. Hein? Mais je vais être curieux de voir l'effet Patrick Roy sur une saison pour la production de tous les joueurs des Islanders. Le système a changé. Un gars comme Mathew Barzal qui va peut-être être un peu plus libéré. Soudainement, on pourra peut-être revenir sur cette prédiction-là l'année prochaine et se dire, ben finalement, Suzuki est en pleine progression, mais Barzal libéré, c'est Barzal libéré. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce deuxième épisode de la tasse de café spéciale Poolers.
Ben, merci à toi, plaisir, Nick.
On va se reparler très souvent de toute façon cette année. Là, on a un aperçu de la saison complète qui s'en vient parmi les balados. On va en avoir presque toutes les semaines, ou à toutes les semaines même, peut-être pas dans le temps de Noël, là. On aime ça fêter Noël, mais à part de ça, dans la saison, on va avoir des balados. Donc, suivez-nous sur vos plateformes d'écoute, comme ça vous êtes certain de rien manquer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X, sur Threads, sur Instagram aussi. Et merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore, messieurs, d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt.